bouleversée lorsqu'une araignée géante attaque son village.
C'est l'histoire d'un garçon qui se transforme en monstre et qui détruit tout son village. Ça te dit un truc ?
D'Orbido, une série originale écrite par Ellie Oliven et réalisée par Christophe Hoquet.
J'ai envie de voyager.
À dévorer sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture, tout de suite LSD, la série documentaire. Cette semaine, Manger la France, une série d'Élodie Maillot, réalisée par David Jacuboviez.
Mes premiers souvenirs de goût, c'était plutôt des premiers souvenirs olfactifs, parce qu'il se trouve que j'ai vécu enfant, c'était aussi une génération où on vivait au-dessus des cuisines, donc je pouvais presque aux odeurs déterminer quel moment de la journée on était. Voilà, c'était presque une horloge en fait olfactive qui se déployait, les odeurs de choux. Enfin, en fait, chaque moment de la journée était séquencé par une mise en place. Donc toutes les remarques que mon père faisait sur les ajustements de goût, sur les équilibres, je y assistais, donc je goûtais aussi en même temps. Donc c'était une vraie école, un vrai apprentissage bien sûr sur le goût.
Manger la France, épisode 2, la fabrique du goût. Élodie Maillot, David Jacuboviez.
Ça a commencé avec le gratin de queue d'écrevisse, hein, les fameuses écrevisses avec la sauce Nantua, donc des plats classiques françaises. Mais c'est vrai qu'à mes débuts, je me suis évertuée à retrouver l'aspect de cette sauce, enfin l'histoire de cette sauce que j'avais goûtée enfant et qui remonte à mon arrière-grand-mère. Donc je garde en mémoire tous ces moments d'enfance où j'ai compris la cuisine aussi. Et après, il y a le chemin aussi qu'on fait seul, c'est-à-dire on ne le fait jamais seul parce qu'il y a une brigade et c'est un travail collectif, la cuisine. Mais il y a aussi un cheminement aussi, à un moment donné, où on est face à soi-même. Il faut construire aussi sa propre histoire. Donc elle ne part pas de zéro, elle part de cette base-là. Mais il faut la construire et il y a un moment de lâcher prise qu'il faut avoir quand on est jeune chef. Et il faut se lancer, c'est l'audace et il faut y aller.
Je ne suis pas comme Anne-Sophie Pic, issue d'une grande tradition de cuisiniers et de cuisinières, mais comme chacun de nous, mes imaginaires de goût ont été formés par mon histoire. Ils renvoient souvent à des souvenirs. Et faire autre chose que les pâtes à la papa ou la tarte aux pommes de maman requiert de l'audace, une façon libre de fabriquer son goût, un goût qui soit affranchi du goût des autres ou de ceux de l'enfance, même si nos plats signatures solo racontent encore et toujours des histoires invisibles de collectifs. Mais au-delà de nos tambouilles de famille et de nos expériences personnelles, qu'est-ce qui ancre vraiment nos goûts et qui les façonne ? Est-ce que nos goûts sont influencés par les modes et par l'histoire de notre pays, si connu pour sa gastronomie ? Nos goûts racontent-ils alors aussi notre nation et notre époque, comme s'il pouvait y avoir aujourd'hui un goût de la France, ou même un goût de la France d'aujourd'hui ? Et finalement, ce serait quoi le goût de la France ?
Alors, le goût de la France... Ça, c'est une question compliquée, en fait. Comment on exprime... Il n'y a pas de goût français dans le palais. Il y a du goût français dans la tête. Je suis pas sûr qu'il y ait une réponse à cette question, en fait. Désolé.
Le goût de la France, c'est... Si est là comme ça, à brûle pour point, moi, ce que ça évoque, c'est quand même beaucoup plus un goût que j'aurais du mal à définir de manière à l'échelle nationale, parce que pour moi, c'est un goût régional, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que...
Je suis pas sûr qu'il y ait un goût réel français. Il y a quelques recettes emblématiques qui nous relient. La blanquette de veau, c'est un grand moment de la cuisine française. Ça. C'est des plats qui sont la poule au pot, enfin, ce genre de choses. Comment l'histoire, au fur et à mesure, a fini par rouler, finalement, de rencontre en rencontre, pour nourrir, en fait, finalement, ce que nous sommes aujourd'hui. Eh bien, le goût de la France, c'est le goût de la rencontre.
On doutait bien que le piment, il vient pas d'Espelette, hein, il venait un peu d'en face. Il a voyagé. Eh ben, il s'est épanoui chez nous. Le cassoulet, au départ, c'est quand même un plat qu'on pense inspiré par la loubia, par des plats d'origine maghrébine. Donc, pour moi, l'identité culinaire française, c'est ça. C'est un endroit tellement riche et tellement foisonnant et tellement accueillant où les goûts y prospèrent. C'est une machine à sampler les goûts formidable.
Bon, mais alors, dans cette formidable machine à sampler qu'est la France et qui a enfanté le cassoulet et la blanquette, mais qui a aussi adoubé le couscous ou les sushis et même inventé la cuisine moléculaire, est-ce que nos enfants intègrent déjà ces histoires nationales, la résonance des récits passés et aussi les identités et les modes chahutés de notre présent?
Bah, pour moi, le goût de la France, c'est les escargots, un peu. J'en ai jamais goûté.
Pour moi, le goût de la France, c'est la ratatouille. Et le fromage, puisqu'on en a beaucoup en France.
Moi, le goût de la France, c'est le goût des knackis.
Moi, je trouve que c'est la baguette, puisque on peut la manger quand on veut.
C'est plutôt la richesse, plutôt, par exemple, les croissants.
Et moi, je trouve que la couleur, ça pourrait être le jaune aussi, parce que c'est un peu soleil.
Bah, moi, je dirais ce qui représente la France. Bah, moi, je dirais la viande de porc, parce que presque tout le monde en mange. Et c'est très rare qu'on voit en France qu'on mange, par exemple, du mouton.
Moi, c'est un peu deux couleurs, le bleu et le blanc. Le bleu, c'est parce que je vais souvent à la mer et c'est le goût de l'eau salée. Et le blanc, c'est la crème de camembert.
Ah, le camembert. Bon, alors moi aussi, j'ai grandi en pensant que pour manger français, il fallait aimer les escargots, les saucisses et surtout le fromage. Et ça, j'avoue que je n'ai pas encore réussi à aimer en manger. Je me suis souvent demandé si j'avais même une sorte de malformation de cette petite glande qui décode le goût dans nos cerveaux et qu'on appelle l'insula. Et peut-être que je pourrais rééduquer mon imaginaire gustatif français. Alors, j'ai demandé à Roland Salès, qui est ingénieur spécialiste en biologie moléculaire et ancien directeur de laboratoire de neurobiologie, de m'aider à comprendre si j'ai bien un cerveau tricolore. Parce que moi, par exemple, Roland Salès, j'ai grandi dans une famille où tout le monde aime le fromage, j'ai grandi en France, mais je n'aime pas le fromage. Mm-mm. Donc je fais partie peut-être des 4% de Français qui n'aiment pas le fromage.
Oui, c'est à peu près ça, oui.
C'est ça. Qu'est-ce qui a pu se passer?
Alors là, on va vous le reprocher de ne pas aimer le fromage.
Mais oui, tout le monde me le reproche, figurez-vous.
Oui, oui.
Est-ce que ça veut dire que mon cerveau n'est pas construit comme celui de la plupart des Français?
Alors, il est construit de la même façon, mais il y a toute une histoire individuelle qui s'inscrit aussi dans le cerveau, qui s'inscrit dans le corps aussi.
D'accord. Et est-ce qu'on peut se rééduquer?
Oui.
Au goût du fromage, par exemple.
Ah, alors ça, c'est quelque chose que j'ai jamais envisagé. J'imagine toujours, on commence avec des petits bouts et puis on augmente la ration. Hein. Ça, c'est le truc classique pour les apprentissages. Okay. On y arrive. L'exemple le plus étudié, c'est pas du tout dans ce champ-là, mais c'est les gens victimes de PTSD en anglais. Enfin, les vétérans qui ont été à la guerre, etc., qui sont traumatisés. Eh ben, on leur réapprend petit à petit, dans des conditions justement sécures, à sentir l'odeur du feu, du gasoil, de la poudre, des choses comme ça. On y arrive.
D'accord, donc...
On y arrive. Désespérez pas.
Là, par contre, si je vous tâche, vous pouvez dire au revoir à votre... vêtements. Parce que ça gicle plutôt par là ou
ça,
par là
je sais pas. Ça va gicler, c'est sûr.
Bon, j'ai essayé de manger du camembert régulièrement, mais j'ai encore du mal. Ça risque de prendre du temps. Alors j'ai décidé de tenter de me rééduquer le palais et le cerveau avec une autre spécialité française dont je n'ai jamais trop aimé l'odeur puissante, le boudin. À Marseille, Laetitia Viss m'a gentiment reçue dans la cuisine de son restaurant, La Femme du Boucher, qu'elle a ouvert après avoir fait une prestigieuse école de cuisine et puis après avoir travaillé dans des étoilés. Laetitia a aussi écrit des livres géniaux sur le pâté croûte, sur la façon de cuisiner la langue ou les testicules, et surtout sa carte m'a fait saliver comme jamais sur des abats. Bref, j'avais un peu envie de devenir comme Laetitia, une cuisinière libre, affranchie des modes et des traditions, des goûts et des couleurs, qui soulevait des litres de sang, même enceinte.
C'est le sang de porc, tout simplement. Il y a juste un peu de sel dedans, souvent pour la conservation. C'est bon, hein, c'est quelle couleur? C'est rouge vif, ouais. C'est super beau le sang. Ça noircit à la chaleur, mais là on a coupé le feu, donc ça va pas noircir tout de suite.
Au début, je n'ai même pas vraiment osé dire à Laetitia que je n'avais jamais mangé de boudin.
Donc, j'ai commencé par faire cuire une tête de cochon entière sur l'os. Voilà, au courbouillon pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'elle commence à se détacher du crâne. Et ensuite, je la coupe en petits dés. Donc ça va être la base de la viande, en tout cas de la partie carnée. Ensuite, j'ai haché un peu d'épaule de cochon et de poitrine fumée que je vais rajouter aussi. Et en légumes, je vais avoir la même quantité de poireaux et d'oignons, juste émincés grossièrement. Je vais faire revenir tout ça dans le saindoux. Après, je rajoute de l'ail, du 4 épices, du piment, du sel, du poivre en assaisonnement. Et à la fin, je coupe la source de chaleur, je mets le sang. Voilà, c'est à peu près tout. Donc en fait, un boudin, techniquement, ça va me prendre peut-être une heure de préparation pour une énorme quantité. En revanche, c'est étalé sur 3 jours. Il faut prendre son temps quand on cuisine, en fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup de raffinement. La gastronomie a des lettres de noblesse qu'on imagine martelées d'or. On a envie d'un truc très... des grandes vestes blanches immaculées, des toques immenses. Voilà, ça, c'est l'image de la gastronomie française. Malgré tout, c'est une cuisine qui est issue d'un terroir, c'est issue d'une cuisine familiale. Il ne faut pas oublier que pendant des années, on mangeait essentiellement des bœufs bourguignons et des blanquettes parce que on n'avait pas forcément de race à viande. En fait, on mangeait la vieille rosse du fond du jardin qui avait travaillé toute sa vie dans les champs, qui était immangeable autrement que bouillie pendant des heures. Et c'est de là que sont nés les pot-au-feu, etc. Donc ces plats-là sont devenus nobles avec le temps, mais au départ, on est quand même beaucoup plus sur une cuisine paysanne. Et puis les gens n'avaient pas forcément les moyens de se payer des riz de veau, de la truffe, du foie gras. Ça touchait quand même très peu de gens. Donc ma cuisine, elle correspond quand même beaucoup plus à ce terroir-là. Le mot raffinement, c'est quelque chose qui... C'est un mot qui m'embête un peu. Parce qu'on a tous des référentiels extrêmement différents. Et ça dépend souvent de l'éducation qu'on a reçue. Donc le boudin, y a pas mal de gens que ça dérange parce qu'ils n'ont pas eu cette éducation avant, et surtout les citadins. Mais on a perdu beaucoup d'habitudes et notamment dans les jeunes générations. C'est vrai que si on servait par exemple le gibier tel qu'on le mangeait il y a 25-30 ans, c'est-à-dire on utilise le terme mortifié en cuisine, on suspend le gibier à des crochets et quand il tombe du crochet, c'est qu'il est bon à être cuisiné. Donc il commence en fait une première phase de décomposition et à l'époque, voilà, quand il tombait du crochet, c'est qu'il était bon, donc c'était super fort. Mais c'était ce qui était recherché en fait. C'était ça le comble du raffinement du gibier. Après, c'était souvent cuisiné avec des alcools, de la baie de guenièvre, des épices assez marquées. Donc ça faisait des plats qui étaient extrêmement racés. Aujourd'hui, je pense que la plupart des gens, si on leur sert ça, c'est presque dangereux au niveau sanitaire. Mais parce qu'on mange des choses qui sont très aseptisées, des produits qui sont ultra frais, et on n'est plus tout à fait capable de consommer ce genre de produits. D'encaisser,
ouais. Trop dur.
Et c'est à ce moment-là qu'il faut goûter à cru. C'est presque violet. C'est pas la même couleur que le sang humain. Pour moi, si, mais... Après, je suis pas fan des prises de sang, donc je regarde jamais.
Mon premier chef, quand j'ai commencé la cuisine, me forçait à manger des farces crues le matin en me disant « Je te demande pas si c'est bon, je te demande si c'est juste ». Et en fait, de cet apprentissage-là, j'ai tiré ça, c'est que je peux goûter quelque chose que je trouve vraiment pas bon, à savoir le gibier. Enfin, en tout cas, c'est un goût qui me plaît pas. En revanche, je sais si c'est suffisamment cuit et suffisamment assaisonné. Et en tout cas, je sais ce que je recherche, mais je pourrais pas manger une assiette.
Alors, bah, ça manque de sel et de piment.
En une gorgée, là ?
Oui. J'en ai fait quelques-uns, des boudins. Bon, c'est bon. Et je mets directement en terrine à cuire une heure à 150.
Pardon, je fais un petit peu peur.
Mais au final, c'est pas si intimidant que ce qu'on pense.
Franchement, je n'avais jamais mangé de boudin ni de pâté en croûte avant. Et pour être honnête, par goût, je ne mangeais pas beaucoup de viande. Et tout d'un coup, j'ai commencé à acheter du pâté en croûte. Et à chaque fois, en le mangeant, je pensais à Marseille et à Laetitia, comme si elle m'avait ouvert le palais ou offert un sésame pour une identité un peu plus complexe.
C'est quand même fantastique, la bouche. C'est quand même, comme la lecture, quelque chose de, qui vous fait voyager dans le temps et l'espace. C'est quand même magique.
Esther El Bayani, critique culinaire.
Instantanément, avec ma bouche, je peux être ailleurs, à une autre époque. Vous me faites manger du navet, je suis au Moyen-Âge. Pour moi, le Moyen-Âge a un goût de navet.
Ah bon?
Ah bah oui. C'est un légume qui était très présent au Moyen-Âge, les raves. Le côté un peu sucré, bouilli. Si, si, c'est le goût du Moyen-Âge, le navet pour moi. Mais vous savez, vous imaginez peut-être aussi les périodes historiques avec des couleurs. Il y a plein de gens qui voient les périodes historiques avec des couleurs. Moi, j'imagine les époques avec des goûts.
Alors, le goût du 21e siècle, c'est quoi?
Oh, c'est un peu métallique. Hein. C'est métallique et acidulé.
Notre époque.
Oui.
Ah, waouh! Qu'est-ce qu'il va faire?
Je suis ravie de vous voir si nombreux et nombreuses pour cette thématique qui est un peu provoque.
Alors, après ma conversion au pâté croûte et mon addiction naissante à la charcuterie, j'ai voulu explorer le goût de notre époque. Je suis allée au festival Omnivore qui ausculte les nouvelles tendances de la gastronomie en France. On peut y croiser Incognito, Joey Starr ou Alain Ducasse, ou des jeunes start-upers qui, je cite, « développent des herbes aromatiques inconnues pour prémiumiser la dégustation ».
Je vais pas tout finir.
Mais surtout, au Festival Omnivore, on peut assister à des masterclass de chefs en vrai.
Délicieux.
Et on peut aussi goûter des nouvelles saveurs.
C'est délicieux.
Ça, c'est le végé ?
Végé.
Ok. Rajoute plus de sauce, par contre. Allô ?
C'est un festival, le Festival Omnivore. Donc ça veut dire qu'on donne sans doute trop. Il y a trop de monde, il y a trop de possibilités.
Luc Dubanchet, directeur du Festival Omnivore.
La cuisine n'était pas la société du spectacle, elle l'est devenue un peu plus. J'ai pas de problème avec l'image, j'ai pas de problème avec la médiatisation, j'ai pas de problème avec la mise en avant des chefs ou la starisation même des chefs. Il faut qu'il y ait une partie de show pour pouvoir aussi emmener le propos. Et on n'est pas ici dans un monastère, on n'est pas dans le monastère de la cuisine. On est dans une cuisine qui est poreuse, avec un monde qui est en surcommunication. Quand j'ai créé Omnivore en 2006, on s'en foutait de la cuisine. C'était absolument pas hype d'être cuisinier ou d'être critique gastronomique dans les années 2000. Hein. Et on l'a fait au Havre Festival parce que personne ne voulait nous accueillir. On n'avait pas une thune et on s'est retrouvés quelques centaines dans un gymnase sous des panneaux de basket. On avait remonté les panneaux de basket, on avait mis un grand rideau, on a posé une scène. Et ce festival est né de cette révolte-là, de vouloir montrer qu'une autre cuisine était possible.
C'est ça aussi la cuisine, c'est au fur et à mesure, c'est tout le temps en fait qu'on pense cuisine. On goûte quelque chose, on sent quelque chose et c'est les trames aromatiques, elles puissent dans ces cas-là.
Moi j'ai une question Anne-Sophie, quand vous dites tomate amère, vous avez déjà rencontré une tomate amère dans la nature?
Non, mais on n'est pas obligé de...
C'est un défi de l'imaginaire.
Bien sûr.
Voilà, on pousse la tomate là où elle n'a pas l'habitude d'aller.
C'est une interprétation.
Voilà.
À votre avis, qu'est-ce qui a changé dans le goût, dans la cuisine, dans les plats, dans l'assiette, depuis que la télévision s'est emparée du monde de la cuisine, depuis qu'Instagram s'est emparé de tout cet univers-là pour en faire un univers beaucoup plus glamour?
Mais ce qui a changé dans le monde de la cuisine, c'est le monde. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas qu'un cerveau français ou un collectif français qui cuisinait, mais que plein de gens cuisinaient à travers le monde. Et Instagram aujourd'hui, ou Facebook avant, etc., ça a été la matérialisation de cette explosion culinaire. Et la compréhension qu'il y avait une voie lactée culinaire. Regardez le ciel, regardez les étoiles, vous avez autant de cuisine que vous avez d'étoiles. Quoi, voilà. Ça, c'est en 20 ans, c'est une accélération totale, elle est vertigineuse, elle questionne bien entendu, mais en même temps, elle permet aussi à ces générations connectées de pouvoir aussi se projeter dans d'autres répertoires que le répertoire traditionnel ou le répertoire national. Quoi.
Mesdames et messieurs, Maurice Accot.
Moi, je suis une cuisine française, mais une cuisine française qui ressemble à ce que je suis. Donc, j'ai des origines en Afrique de l'Ouest, donc qui est africaine. Et j'ai toujours une passion pour le Japon, donc on y rajoute le Japon. Et cette cuisine française, bah, c'est celle d'un Français du 21e siècle, je dirais. Si on devait définir cette nouvelle cuisine, je dirais que c'est une cuisine qui est beaucoup plus personnifiée. La recette ne suffit plus, il faut qu'on y amène un bout de soi, il faut qu'on raconte une histoire, il faut qu'on amène les gens avec soi. Et je pense que la personnalité est très importante dans cette cuisine.
Je
Et dans cet univers de chefs où chaque plat doit aujourd'hui raconter une histoire, mais aussi une trajectoire personnelle, les chefs ont désormais leurs propres agents, comme les artistes. Et comme les rockstars des musiques actuelles, leur nom s'imprime en gros sur des affiches, dans des festivals ou sur les réseaux sociaux. Ils font des collabs et des cool labs au Festival de Cannes ou au JO. Ils cuisinent avec des chefs seniors ou des stars de la musique comme Lana Del Rey, avec qui le jeune Valentin Raffali a imaginé un sandwich spécial pour le festival Rock en Seine, tout juste après avoir participé à Top Chef, l'émission culte d'M6.
Les premiers goûts qui m'ont traversé, c'est des goûts très simples. Moi, je viens d'un monde très normal, tu vois. J'ai été élevé par ma mère, elle travaillait beaucoup. Enfin, on était trois enfants, elle était toute seule. Et donc, quand elle avait le temps, elle cuisinait. Et donc, j'ai de super souvenirs. Et des exemples, c'est genre des lapins à la moutarde, ou je suis franco-marocain, donc une cuisine marocaine à la maison, ou des odeurs le matin quand tu arrives dans la cuisine et que tu sens la nourriture de la veille, tu vois. Mais les souvenirs principaux que j'ai, c'est des souvenirs qui sont très simples et que j'adore. C'est genre, ma mère, elle a beaucoup travaillé cette journée, elle va m'appeler, elle va me dire est-ce que tu peux mettre une boîte de ravioli au four. Et c'est ces souvenirs-là que j'ai d'enfance, tu vois. J'ai aucun problème avec les produits transformés ou les... Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais pour moi, le luxe, quand j'étais gamin, me faisait croire que les œufs de limpe, là, noirs, c'était du caviar, tu vois. Donc, j'ai appris à... Tu sais, c'est les œufs de poisson noirs, là, que tu vas voir chez Leclerc, là. Je sais pas, j'ai dû attendre mes 12-13 ans pour savoir que c'était pas du caviar, tu vois. Mais pour nous, c'était ça. Mais du coup, à table, on le consommait comme si c'était ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des anecdotes qui sont drôles. Enfin, voilà, moi, je viens d'un monde qui est très simple et je me reconnais dans des coups qui sont très simples. Juste avant, j'étais à Beaumanière, c'est le premier relais château français. À l'époque, c'était avec. C'est toujours Jean-André Charial, mais c'était Sylvestre Waïd. Où là, on est en plein dans la gastronomie française, mais là, provençale. Donc j'ai vraiment eu cet apprentissage, mère ouvrier de France. Où là, il y a la culture escoffier, tu vois. La culture des bases, des fonds, et des fonds qui deviennent une sauce derrière, de travailler le poisson, d'abord aiguiser ses couteaux, des services qui étaient intenses, de règles, de porter une veste, de porter une toque. Donc moi, je viens de ça. Et j'ai décidé d'arrêter et de me dire mais en fait c'est pas mon truc, tu vois, je m'y retrouve plus, parce que je trouve que l'uniformisation de quelqu'un, et ben ça, on coupe la culture à ce moment là c'est à dire que ma connexion, moi, elle vient de mes racines, et ces racines, elles m'ont accompagné jusqu'à ouvrir mon restaurant. Et quand j'ai ouvert Livingston, il y avait de la tête de veau, il y avait des pieds de cochon, il y avait des tripes, on reçoit toujours les agneaux entiers. Moi, j'adore les plats français. Le premier que je... Un très bon plat français, ça va être une tête de veau sauce gribiche, ça va être un lapin à la moutarde, ça va être un très bon poulet rôti, une belle volaille de Brest, tu vois. Ça va être le travail des champignons, ça va être une pêche melba. Il y a tellement de choses à dire, mais moi je suis très attaché en tout cas. Et je trouve que c'est un super support de travail, notre patrimoine technique en tout cas. Mmh. Et c'est génial dans ma génération, c'est que moi j'hérite de tout ça. C'est plutôt que de faire... tu vois, dans un pot-au-feu, par exemple, c'est un truc que j'avais fait à Top Chef aussi. On utilise la même technique, mais sauf que le bouillon, on peut peut-être l'infuser avec du galanga, avec beaucoup de menthe, de piment, des tiges de coriandre, de la tagette. Et là, on part sur quelque chose de différent. Mais l'ADN, à la base, c'est le même. C'est un pot-au-feu, tu vois. C'est le terroir. Pour moi, c'est ça.
À côté, je vois une petite machine là qui s'appelle Valentin.
Épreuve de Top Chef.
Et ce mec-là, il est capable de faire des trucs de fou.
Saison 14. Ah,
merci. Très gentil, ça.
C'est couillu, hein.
Ah ouais, c'est couillu, chef.
Me vaut... C'est couillu, mais ça me plaçait.
Ouais, ah. C'est vrai. Ça, c'est bien, ça.
Après, attention, faut pas que limite ta première bouchée sur le meilleur.
C'est une épreuve que je considère avoir ratée, mais en fait, j'étais fou, moi, d'essayer de faire ça en une heure et demie, ou je sais plus combien de temps que j'avais, tu vois. C'était d'essayer de traduire dans une main le passé d'un chef qui essaye d'en mettre trop. Donc, en l'occurrence, je parlais de moi, tu vois. Parfois, quand t'es jeune, t'essayes de te sécuriser à travers le trop. Saturer les choses, en mettant beaucoup de messages, et ben ça cache un vrai manque de confiance en soi, tu vois. Moi, je fais beaucoup d'angoisse et d'anxiété. Et du coup, ça se traduit par de l'eczéma, tu vois, comme ce que je peux faire avec les mains. Et je me disais, comment est-ce qu'on peut traduire de la brûlure cutanée, en fait, qu'on peut avoir quand on se détruit, parfois un petit peu artistiquement, tu vois. Mais j'avais cuisiné un chou pointu qu'on avait acheté dans un marché génial. Et c'était un chou pointu qui était grillé au barbecue, tu vois, mais très blanc à l'intérieur. Et par-dessus, on l'avait recouvert d'un sabayon de vin jaune, et j'avais posé un fruit qui s'appelle de la physalis par-dessus. C'est un tout petit fruit rond et jaune. Et en fait, j'ai essayé de traduire de l'eczéma qu'un cuisinier pouvait vivre parfois à travers ça, tu vois. Parce que c'est beaucoup de temps seul, et de développer sans demander de conseils, ça t'amène parfois à t'abîmer. Parce que je veux dire, c'est que ce qu'on cuisine, c'est le prolongement de qui on est, tu vois. Mais du coup, en fait, quand tu te poses vraiment la question de qu'est-ce qui est vraiment bon, et bah, tu te perds là-dedans, tu vois.
Il faut que ce soit réconfortant, en tout cas. Il faut qu'un plat soit réconfortant pour pouvoir créer du lien, éventuellement.
Quand vous dites réconfortant, vous voulez dire quoi? Parce que c'est un terme qui est de plus en plus associé à des plats.
Oui.
C'est nouveau.
C'est très nouveau, c'est vrai.
Emmanuel Perraudin.
Je sais pas, moi, une saucisse purée, pour moi, c'est réconfortant, par exemple.
Cuisinier itinérant.
Parce que c'est un souvenir d'enfance. Et effectivement, on touche là à quelque chose qui est vraiment... qui nous définit aussi, en partie. Je peux parler de sources personnelles, pour le coup. Une de mes grand-mères était une très, très grande cuisinière. Et une autre de mes grand-mères était vraiment une catastrophique. Mais elle faisait deux, trois choses très, très bien, dont la purée. Son secret, c'était le beurre. C'était le beurre de la fruitière, parce qu'avec son mari, ils étaient tous les deux producteurs de lait, et donc c'était le beurre de la fruitière qui avait un goût extrêmement riche, qui donnait à la pomme de terre du jardin. Enfin, l'alliance était parfaite. Et le jus de viande saucisse plus la purée, c'est quand même très étrange de dire que je pense que ça fait partie des plats qui, moi... Voilà, c'est réconfortant.
Je sors juste une serviette parce que on en manie partout. Excusez-moi. J'ai remarqué qu'il y a de nouveaux mots qui apparaissent pour décrire la nourriture aujourd'hui. Rassurant. Régressif. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un mot d'une époque, régressif, de notre époque?
Oui, quand on a besoin d'être rassuré, quand le monde extérieur est très bousculé, on est moins aventureux sur les saveurs et on revient sur les valeurs sûres. Ça vient avec le retour du bistrot, les plats de tradition, les bouillons, tout cet imaginaire de la cuisine française qui était un peu désuet, qui est revenu en force. C'est le mouvement habituel de l'intérieur-extérieur. Quand on est inquiet, on se replie sur soi-même. Quand on est en pleine expansion, on peut accueillir toutes les influences du monde.
Est-ce que régressif, c'est un mot que vous utilisez dans vos chroniques?
J'aime pas trop. J'aime pas trop l'écrire. Souvent, quand on dit rassurant, régressif, ça fait référence à des goûts un peu neutres et des textures molles, genre un peu bouillie pour bébé. Moi, c'est pas des choses que j'aime. Moi, mon côté régressif, c'est ce qui craque et ce qui a plutôt du goût. Je suis plutôt bruschetta avec de l'ail et des anchois. Et je sais pas, pour vous, c'est quoi qui est régressif?
Moi, je l'utilise jamais non plus, mais je dirais le gratin dauphinois, parce que c'est gras.
Ah, intéressant. Ça me serait pas venu à l'idée.
Ouais.
Mais c'est parce que, vous voyez, à chaque fois qu'on utilise un adjectif, on renvoie à des imaginaires. Est-ce que nous partageons tous le même imaginaire alimentaire? Absolument pas.
Et est-ce qu'il y a des goûts, attention, plus durs? Est-ce qu'il y a des goûts que vous n'aimez pas et que vos parents adorent? Ou l'inverse? Ou l'inverse, d'ailleurs. Vas-y, Baya, derrière.
Bah, moi, c'est les blettes. Ma mère, elle adore les blettes. Et moi, je déteste parce que c'est comme les épinards, mais c'est en pire. Tu dois manger la tige. Et en plus, ils essayent de me les préparer dans des plats que j'aime bien, mais...
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas? Essayez de me décrire, tiens, un goût que vous n'aimez pas.
Moi, j'aime pas le chou Bruxelles parce que je trouve que dans ta bouche, ça explose et ça a un goût de vomi.
Oui. Oui, Gabrielle, là-bas.
C'est mes parents qui aiment et moi je déteste, c'est l'anchois.
Ah. Et est-ce que tu crois que plus tard tu aimeras l'anchois?
Non, ça risque pas.
Pourquoi?
Parce que c'est un goût de fumée.
D'accord.
Ouais, c'est vrai ça.
Vas-y, Alissa.
Moi, c'est le camembert.
Le camembert, pourquoi?
Moi, je déteste ça.
Oui.
Mes parents, eux, ils adorent. Bah, en fait, moi, j'aime pas trop parce que c'est gluant. C'est moelleux et c'est un peu trop goût fromage. Enfin, c'est gluant, c'est moelleux et la croûte, elle est dure. Et dedans, comme ça croquer, moi, ça me donne vraiment envie de venir.
Ok. Vas-y, Martin.
Les champignons. Déjà, parce que c'est très mou. J'aime.
C'est difficile, hein? C'est difficile de décrire un goût.
Jamais un mot ne permet d'avoir le même ressenti physique qu'un plat. Un son, ça rentre directement dans votre oreille. Un goût, ça rentre directement dans votre bouche. Un mot, faut que vous le processiez, pas tout à fait de la même façon. Il y a des plats, parfois, ça vous fait pleurer. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous goûtez une bouchée d'un plat et d'un coup, waouh, il se passe un truc.
Ça vous est arrivé?
Ah oui. Oui, oui, bien sûr.
La dernière fois, c'était quoi?
Oh, c'était il y a très, très, très longtemps. Plein été. Il y avait des pastas à la norme. C'est des pâtes avec des aubergines frites et de la ricotta salata. Eh ben, j'ai mangé une fourchetée. Et waouh, j'ai eu tous mes souvenirs d'enfance en Sicile. J'y allais tous les étés. Qui me sont revenus, mais... Pouf, j'avais l'impression d'être en maillot de bain sur la plage et d'avoir 6 ans, quoi. Et surtout, je m'y attendais pas. J'étais à Paris avec des copains. Je me suis fait surprendre. Et là, oh, pouf.
À table, regardez tout ce que je convoque. Mais au milieu du cerveau, il y a au moins deux systèmes qui nous concernent pour l'alimentation. C'est premièrement le système limbique. Alors, qu'est-ce que c'est que le système limbique ? C'est le système des émotions et de la mémoire. Madeleine de Proust, hein, qui travaille de façon non consciente. Ça se passe dans une petite zone qui s'appelle l'insula. Il y en a une de chaque côté dans le cerveau. C'est de la matière grise. Et dans cette zone, le cerveau peut recréer une image même quand on n'est pas en train de manger. C'est-à-dire que ça sert à anticiper ce que manger va nous faire. Je mange, je ne sais pas quoi, un beefsteak frites, et ben, j'aurai, chaque fois que j'y repenserai même, j'aurai cette image de beefsteak frites et même de ce que ça me fait à mon corps. Donc,
pardon, c'est-à-dire que si on repense à un beefsteak frites, sans avoir le beefsteak frites dans son assiette et, qui plus est, sans déguster ce beefsteak, on peut activer certaines zones du cerveau tout qui seraient fait. Exactement les mêmes que dans la réalité.
Absolument, parce que il faut activer les mêmes zones pour apprécier, pour avoir reformé l'image sensorielle.
Alors, baissez vos doigts. Baissez vos doigts. Alors, baissez vos doigts parce que je vous ai trouvé d'autres extraits. Ah, celui-là, mon préféré. Vous êtes prêts ? Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi. Donc Marcel Proust, il mange un petit bout de madeleine mêlée à du thé, lui qui se sentait pas très bien. Et d'un coup, lui reviennent des souvenirs. Moi, je voudrais savoir si vous aussi, vous avez comme ça, des petites choses qui, quand vous les mangez, ça vous rappelle un bon souvenir. Ce plat ou ce goût, cette petite chose qui éveille en vous un souvenir, qui éveille en vous une émotion. Parce que parfois, manger, ça éveille chez nous des émotions. Oui, Juliette, tu veux ?
Moi, le gâteau de ma grand-mère, ça me fait ça un peu.
Ça te fait quoi, le gâteau de ta grand-mère ?
Ça me rend joyeuse.
D'accord.
Moi, en fait, c'est mon père. Il fait un plat qui vient du Maroc, qui, en fait, venait de mon arrière-grand-mère. Et en fait, ça s'appelle la daffina. Et moi, ça me rappelle des souvenirs parce que c'est trop bon et que voilà.
Quand ma maman elle me fait du couscous, ça me fait rappeler le Maroc. Parce que parfois, j'y vais quand je vais en vacances.
Et est-ce que le couscous du Maroc a le même goût que le couscous que tu manges ici ?
Oui.
Oui ?
Parce que c'est ma maman qui le fait. C'est la même recette que celui de ma grand-mère.
D'accord. Niki ?
Moi, quand je vais dans un restaurant, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en fait, c'est un restaurant où on allait souvent pour fêter l'anniversaire de mon frère. Et vu que je ne le vois plus très souvent, ça me fait penser à lui.
Gaspard.
Moi, c'est pareil avec la tarte aux pommes de ma grand-mère. J'aime pas trop les tartes aux pommes qu'on trouve souvent dans les boulangeries, voilà. Et celle de ma grand-mère, j'aime bien.
Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle met, ta grand-mère ? Est-ce que tu sais ce qu'elle peut mettre, ta grand-mère, qui est différente de celle des boulangeries ?
Non, je sais pas. Et parce que souvent, elle les fait avant que j'arrive dans sa maison.
Ah, d'accord. Vas-y, Susan.
Moi, c'est les frites de mon arrière-grand-mère.
Pourquoi ? pourquoi les frites de ton arrière-grand-mère n'ont rien à voir avec les frites de McDo, par exemple.
Bah parce que celles de McDo, elles sont plus... déjà, elles sont plus fines.
D'accord.
Elles étaient plutôt moelleuses.
Dylan, vas-y, dis-nous.
Bah, aussi, au sujet des frites, et ben, les employés de McDo, ils mettent pas de l'envie en faisant les frites, alors que les mamies, elles mettent de l'amour et tout, alors que, bon, genre, il y a une petite différence entre les employés de McDo et les mamies, quoi.
C'est marrant, ça. Mais comment est-ce qu'on met de l'amour dans un plat? Moi, j'en ai pas dans mon frigo de l'amour.
Non, bah, genre, des fois, tu t'appliques et tout, alors que les employés qui travaillent à McDo, genre, ils les font comme ça, mais pendant toute la journée, et après, ils vont les servir. C'est pas que, genre, faut aussi aimer son travail. Quand t'aimes ton travail, tu peux le faire un peu mieux quand même, et tu mets de l'envie, et voilà, quoi.
Alors, moi aussi, j'ai essayé de mettre de l'amour et de l'envie dans ce que je prépare à manger tous les jours. Moi aussi, j'ai voulu que mes plats aient un peu le goût invisible des mamies et des grands cuisiniers de l'histoire de France qui ont inventé la soupe à l'oignon ou la blanquette. Et comme beaucoup de cuisinières, bah, j'ai surfé sur Instagram pour trouver le goût des recettes traditionnelles. Comment faire son pain, son levain soi-même, ses yaourts, etc.
Alors la saison des chantiers à la crème est ouverte. Alors j'en profite pour vous avouer que je suis une très mauvaise cuisinière. J'ai du mal à garder la maison bien rangée, et puis une fois sur deux je rate mes gâteaux. Tout ce que je cuisine est maladroit et bien souvent inesthétique. Et pourtant, maintenant que je suis la gardienne de mon foyer, ça a pris beaucoup d'importance pour moi.
Et là, je suis tombée sur cette vidéo.
J'ai envie d'apprendre à faire les souffles
de ce qu'on qualifie aujourd'hui de tendance tradwife assumée.
Et alors qu'on a toujours présenté le ménage et la cuisine comme des activités dévalorisantes, un peu trop longues ou aliénantes, c'est seulement maintenant que je me rends compte de la valeur qu'elles ont.
Comme si l'algorithme d'Instagram m'avait ciblée comme une femme au foyer 2.0, conservatrice, qui sait faire en cuisine pour faire des bons plats français du dimanche.
Bah, sur la table, moi, ma mère, le week-end, on mangeait des plats traditionnels d'Afrique de l'Ouest. Donc ça allait aussi bien du tiboujène qu'on trouve au Sénégal.
Morisako.
Il y a le mollusque, donc le yette, qui est le gros escargot de mer fumé. Et celui-là,
chef étoilé.
Il rajoute un fumé à la sauce, mais... petit, que ce soit moi ou mes frères ou sœurs, quand on tombait dessus, c'était comme si on était tombé sur la fève, mais dans le mauvais sens, dans le plein. Je suis tombé dessus, ah, mais tout le monde se moquait de toi parce que t'es tombé dessus, mais ça joue sur le fumé de la sauce, mais c'est vrai que le goût comme ça, pur et hyper puissant et très fumé et très poissonneux finalement.
À quoi ça ressemblerait? Moi, je trouve que parfois ça ressemble un peu au camembert, mais peut-être que je me trompe.
Non, ça ressemble à... un camembert, mais qu'on aurait fait fumer longtemps avec, dans une sauce poisson. Mais c'est un goût. Heureusement que c'est très légèrement infusé et qu'on garde juste le parfum, mais le goût pur est un goût très, très puissant.
Quel est le premier souvenir en cuisine que vous gardez au lycée, par exemple?
Premier souvenir, c'est le premier cours de cuisine, parce qu'on se souviendrait toujours, parce que je me suis retrouvé là avec ce tablier, cette veste blanche, la toque, un pantalon de pied de poule absolument horrible. Je ne savais même pas ce que je faisais là. Et le prof nous dit, bon, bah, on va brider une volaille, et il se met à commencer à coudre un poulet. Et puis là, je me souviendrai toujours que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais à coudre un poulet là? Et c'était assez drôle parce que c'était ma première émotion en cuisine. Et j'étais comme si je vivais ça comme un rêve, mais à l'extérieur, et je m'observais moi-même et je me disais, bah, bon, bah, on y va. Et il s'avère que je l'ai super bien fait, ce bridage de poulet. Et derrière, on a fait un poulet rôti. Et puis, en fait, le chef m'a félicité, m'a dit que c'était super bien fait. Moi, j'étais très content de moi et ça commençait comme ça. Mais la première émotion, j'étais limite plus déguisé qu'habillé en cuisinier quand j'ai commencé ce métier, quoi.
Et vous aviez aucune expérience?
Aucune expérience, ni technique, ni professionnelle. Et même sur les produits, j'avais un retard à rattraper. Et la seule cuisine vraiment française que je connaissais, c'était celle de la cantine et qui n'était pas de la cuisine. Et donc, j'ai dû tout retravailler, quoi. Un fenouil, un artichaut, je n'avais jamais mangé, je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai dû découvrir, hein, un artichaut, c'est quoi? Ok, je découvre, et en même temps, je goûte, en même temps, j'apprends à le travailler, un fenouil. Et tous les jours, c'était comme ça. Une blanquette, bon, bah, en fait, une blanquette, c'est quoi? Je ne sais pas. Bon, allez, on cuisine une blanquette, on goûte, hein, c'est bon. Et tous les jours, j'apprenais quelque chose. Et moi, j'ai vraiment adoré cette partie parce qu'aujourd'hui, tout mon héritage technique et mon bagage technique est celui d'un cuisinier français, en fait.
Comment vous définiriez ce que c'est que la gastronomie française? C'est basé sur quoi? Alors, c'est quoi les bases?
Moi, je la mets souvent en opposition avec la culture japonaise. Donc, la culture japonaise, on dit qu'un bon chef, c'est un chef dont la main ne se voit pas. Donc, il va arranger le poisson, il va le travailler, il va le découper, mais il va le remettre dans le poisson. Et comme si aucune lame n'était passée par là, il va le remettre dans son état naturel. Alors qu'à l'inverse, la cuisine française, c'est une cuisine d'ajout où la main de l'homme va se voir. Donc on va transformer le saumon, on va faire un saumon à la parisienne, on va venir le laquer et puis remettre une gelée par-dessus. Donc c'est une cuisine qui va être une cuisine d'addition. Au contraire, là, la cuisine japonaise est une cuisine de soustraction. Et tout ce savoir-faire, il a été extrêmement bien codifié. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la cuisine française est encore à la base de beaucoup de cuisines.
Léa, t'as de la pomme de tailler ou pas, Léa?
Alors, préparation de la cervelle. Laver la cervelle à l'eau courante froide, puis la débarrasser des membranes et des vaisseaux sanguins. Tu vois, t'aurais lu ça, tu savais.
Ouais, j'ai pas eu l'impression.
C'est même pas lavé, normalement, c'est trempé. Faut tremper au minimum 24 heures. La faire dégorger une heure à l'eau vinaigrée, c'est ce que tu fais ou pas? Ok, pour dégager le sang. Hein. Et la laver à nouveau. La cervelle peut alors être blanchie, donc c'est bien après, à l'eau salée. Cuite tout doucement au courbouillon ou escalopée et cuite directement dans un beurre ou de l'huile, d'accord? Bon, mais généralement, quand tu as des doutes, tu viens de plonger dans ces deux livres-là, l'Escoffier ou l'Encyclopédie du Larousse. Généralement, ta réponse à tes questions.
Il y a peut-être une figure tutélaire qui plane dans les cuisines françaises d'aujourd'hui.
Pour la semaine prochaine.
C'est celle d'un cuisinier du 19e siècle, Auguste Escoffier, l'auteur du fameux guide culinaire, qui a notamment permis de codifier, de moderniser et de professionnaliser la cuisine raffinée des palaces.
Alors, il ne faut pas qu'il y ait d'excès de crépine.
Pour moi, Escoffier est impérissable. C'est le référent, voilà, c'est le référent dans la grande tradition de la cuisine française.
Michel Troisgros,
puisque c'est comme si
chef étoilé,
elle était la base, en effet, la base, le socle qui après permet de s'évader. Mais au moins, elle donne les principes, voilà, pas que d'ailleurs des principes d'idées, même les principes, parce que à l'ouverture de chacun des chapitres d'Escoffier, on explique le produit. Alors après, il y a des choses qu'il faut remettre, on pourrait dire, dans le contexte du temps. En tout cas, il y a quelques livres comme ça qui sont, à mes yeux, très précieux pour le travail.
Donc vous n'avez jamais voulu vous émanciper d'une certaine idée de la gastronomie française, de la crème, de...
Ah si, non, si, j'en suis sorti. Non, heureusement, non, j'en suis sorti, la cuisine de la crème, de la matière grasse et des lourdeurs. Ah non, on fait plus la cuisine comme avant. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est des principes de base, mais à partir de là, c'est l'envol. Voilà, il faut s'envoler sur l'Escoffier. Il faut se sentir l'esprit, après, libre, quitte à faire des bêtises. De l'excès, des fantaisies, des choses qui peuvent être incomprises, on pourrait dire. Mais il faut de l'audace pour faire avancer les choses. Ouais, il faut de l'audace. À condition que ça soit de on va dire, qu'il y ait de la gourmandise quand même, qu'il y ait un équilibre.
Il n'y a pas seulement le fraise et caviar à le dire.
Extrait de Menu Plaisir.
Fruits et caviar, un fruit rouge et du caviar, mais la couleur...
De Frédéric Wiseman.
Ça pourrait être un dessert.
Dans le film de Wiseman, on parle aussi à un moment des fraises et du caviar. Voilà. Au départ, les fraises et du caviar, c'est pour faire une entrée. Et puis, on évoque autour de la table, en effet, la possibilité d'un dessert. Et tout dépend de l'équilibre, en fait. Tout dépend de la manière dont les fraises auront été traitées. Est-ce qu'elles sont nature? Non. Est-ce qu'elles vont être marinées? Oui. À quoi? Est-ce que c'est un tel acide, des épices, pas d'épices? Qu'est-ce que le caviar va pouvoir supporter? Quel dosage du caviar? Est-ce que c'est du caviar aussi être? Est-ce que c'est du caviar pressé? Plus dense, plus amer, plus... Voilà. Et puis, qu'est-ce qui va créer le lien entre la fraise et le caviar? Il y a peut-être un élément à trouver. Mais ne pas se refuser de le faire, d'entrer, pas dire non, c'est dans aucun livre. Et pourquoi pas? Voilà. Et pourquoi pas? Tout est possible.
Sans préjuger, c'est comme le rognon et le fruit de la passion, hein. Tu frappes les esprits, comment c'est possible, et après ça, c'est peut-être encore un cran un peu plus loin.
Là, oui, on prend l'Escoffier, on ouvre au hasard, on tombe sur la terrapène, une tortue qu'on mange en Amérique du Nord dont j'avais jamais entendu parler. Je trouve ça extraordinaire, non?
Esther El Payani.
Bon, sinon, on lit autre chose. On peut en parler d'Escoffier parce que c'est très intéressant.
Critique culinaire.
Quand on parlait de nouvelle cuisine, c'est aussi des choses beaucoup plus instantanées, beaucoup plus fraîches, par opposition à Escoffier. Mais avoir Escoffier dans sa poche ou dans sa cuisine, c'est dire qu'on se réfère, qu'on se place dans la famille des grands cuisiniers français. Comme il y a une croix dans les églises, vous avez un Escoffier dans les cuisines. Tout le monde est supposé en avoir un. C'est vrai que ça vise à codifier, parce que c'est celui qui a créé la brigade, l'ordonnancement, qui a donné de l'ordre. C'est un peu comme le code Napoléon pour le code civil, finalement. De mettre noir sur blanc des choses. C'est la volonté organisatrice et fédératrice du 19e. C'est comme Haussmann qui met toutes les maisons droites. Escoffier, il fait la même chose. Il met tout au carré. On en a fait le maître étalon de la cuisine française. Mais c'est d'une certaine cuisine française. Alors ça, c'est Olivier Rollinger qui m'a fait voir ça comme ça. Il me disait, mais regarde la béchamel d'Escoffier, c'est du béton. Parce que quand tu faisais au 19e un plat, il fallait qu'il résiste à l'usure du temps. Il n'y avait pas de frigo. Et il fallait que ce soit bon de 8h du mat jusqu'à 20h quand tu faisais du room service ou quand tu faisais du banquet. Et donc Escoffier est plus proche du savoir d'un traiteur que du savoir d'un cuisinier qui va dresser à l'assiette. Maintenant, penser que c'est toujours d'actualité, c'est un contresens en fait. On cuisine plus comme cuisinait Escoffier. On a une trace de ce qu'était la vision de la cuisine française à cette époque. Et c'est génial, c'est un témoignage merveilleux. Mais il ne faut pas que ce soit une prison.
Tu m'as bluffé là. Je suis estomaqué, je te jure.
Ouais, mais c'est aussi ça. C'est pour ça que
c'est aussi ça la cuisine.
Non, mais c'est aussi ça la cuisine. Non, mais
on
ne le sait pas, mais souvent, moi qui fais Top Chef, on peut résumer un concours et faire des recettes. Mais non, il y a un besoin d'avoir une connaissance empirique sur plein de sujets qui vont de l'étymologie à de l'anthropologie, à beaucoup de choses. Ouais. Et on peut remonter très loin en partant d'une recette.
Finalement, le bagage technique d'un cuisinier français est le meilleur bagage technique d'un cuisinier au monde. Donc, et ça, c'est important d'en être fier déjà et de le reconnaître d'un premier lieu.
Qu'est-ce que vous devez à Escoffier, par exemple?
Maurice Sacco.
Bah, Escoffier, je pense que je lui dois le travail sur les sauces, la régularité des sauces.
Chef étoilé.
Il a su codifier les sauces de base, donc la sauce brune, la sauce espagnole, la sauce blanche, et toutes ces sauces-là qui sont arrivées derrière, la béchamel, qui sont aujourd'hui la base de tout cuisinier qui veut faire un bon jus et une bonne sauce. Moi compris.
Beaucoup de cuisiniers ont encore les livres d'Escoffier dans leur cuisine, c'est votre cas?
Oui, bien sûr, j'ai un livre d'Escoffier et annoté. Mon premier chef m'a dit un Escoffier, ça s'annote, parce que c'est une base. Mais après, derrière, t'en fais ce que tu veux. Donc, tu peux rayer, tu peux remettre tes pesées. Et donc, c'est un cadeau que moi, je fais à tous mes stagiaires. Quand j'ai un stagiaire au restaurant, quand il part, je lui offre un Escoffier. Je lui dis, garde-le dans un coin de ta bibliothèque. Un jour, il te servira. Et souviens-toi que c'est moi qui l'ai donné.
Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous l'avez ouvert?
Je me rappelle sur quoi je suis tombé. Mais la dernière fois que je l'ai ouvert, je cherchais une base de sauce brune. Une sauce qu'on faisait au Moyen-Âge à l'époque où on n'avait pas de tomates. Et donc, il travaillait énormément avec du verjus, du vinaigre et des vins qui étaient passés. Et donc, je recherchais une sauce à base de vin. Il y avait une base de sauce bordelaise, mais qui ressemble pas à celle qu'on fait aujourd'hui. Et finalement, je me suis juste débrouillé avec sa sauce espagnole qui est au vin blanc. Donc, dans la base de sauce, je suis venu faire rôtir des bananes plantain. Et j'ai mouillé avec un jus à base de moules parce que je faisais une recette tomate, moules et bananes. Donc Escoffier a fini avec des moules et des bananes, mais voilà ce que je lui dois.
Alors, il y a 20 ans, j'étais évidemment un anti-Escoffier, j'étais évidemment... Mais parce que c'était justement la pure codification et que je trouvais que la cuisine codifiée était quelque chose de potentiellement dangereux, c'est un monde figé. Mais alors, assez paradoxalement... Et on en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec Thierry Marx. Il se trouve que ces vieux grimoires et la grande tradition saucière française du beurre blanc, de la sauce bordelaise, etc., revient aujourd'hui à la mode et est reprise par ces jeunes chefs. Donc finalement, je suis beaucoup moins radical aujourd'hui et je pense quelque part que ce monde est moins radical parce qu'il intègre ces vieux grimoires, il intègre la tradition et on n'est plus en opposition comme ça a pu être le cas au début d'Omnivore il y a une vingtaine d'années. Les frontières sont pas les mêmes, quoi, pour inventer des plats nouveaux. Voilà.
Moi, je fais de la cuisine, voilà. Point barre. Voilà. J'ai la chance d'avoir un truc au bout des doigts qui fait qu'il...
Pierre Gagnère.
Parfois, ça marche pas. Hein.
Cuisinier et le meilleur chef du monde.
J'ai pas l'impression d'intellectualiser ma cuisine.
En 2015.
J'ai pas l'impression. J'y mets tout mon cœur. Maladroitement, mais j'ai senti qu'avec la cuisine, on pouvait quand même aller vers les autres. On pouvait être aimé, regarder, faire plaisir. Et là, tout a changé. Et puis après, j'ai repris l'affaire de mon père. J'étais obsédé par des détails, par des... Et je suis encore, mais aujourd'hui, c'est plus apaisé parce que je sais où je vais. Je, dans ma tête, c'est construit. J'ai une mémoire des produits, j'ai une mémoire des goûts, j'ai une espèce de bibliothèque mentale, et ça va beaucoup plus vite.
Ouais.
C'est parce que vous arrivez à mieux identifier les goûts que, oui. que vous vous êtes apaisé.
Oui, oui, puis il y a une mécanique dans ma tête qui est... Je pars plus de rien, quoi. Alors que je suis parti de vraiment rien. J'ai tout construit, quoi.
Mais quand vous parlez du goût, des ouais. goûts que vous avez ouais. appris, justement, qu'est-ce que vous avez appris comme goût de votre père mmh. ou de votre passage chez Bocuse, ouais. par exemple? Qu'est-ce qu'on peut apprendre du goût des autres? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que, justement, ils vous ont appris à goûter, appris à aimer?
Non. 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 On n'apprend pas, on ressent, moi, je crois. C'est un métier de ressenti. Bien sûr, il y a des gestes, mais le goût, c'est un truc qui s'apprend pas. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression. Le goût, c'est comme d'apprécier une œuvre musicale où on rentre dedans ou on rentre pas dedans, quoi. Voilà. Vous voyez,
faut le croquer comment tout. On peut le manger.
C'est très bon.
Ça a quel goût?
Bah, c'est de la salade.
Ah, c'est bon? J'aurais pas dire ça, quel goût. Ça a le goût des feuilles. Et des petits pois un peu.
Moi, j'aime pas parce que c'est amer.
Parfois, je sens et j'ai le goût dans ma bouche. Et là, ça sent les trucs de l'herbe normale.
Après?
Bah, ça sent un peu la nature.
Ouais, c'est vrai.
Ça a un petit goût de petits pois. On dirait un peu des herbes.
Ah ouais, ça a le goût de petits pois.
Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois. C'est un légume bien tendre. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois. Ça ne se mange pas avec les doigts.
Je faisais rentrer les produits. Je savais même pas ce que j'allais en faire. Je les connaissais pas. J'observais. Je voyais le frigo. Je leur parlais presque. J'étais bon. Là, je...
À une petite côte de bœuf
Ouais, la côte de bœuf, ça, je connaissais. Des choses plus... qui, aujourd'hui, sont banales.
Par exemple
Par exemple, le fruit de la passion, on ne connaissait pas. La mangue jaune, on ne connaissait pas. Le mizuna, le mibuna, la coriandre fraîche, on ne connaissait pas. Le gingembre, on ne connaissait pas. Et il faut bien se rendre compte que c'est un peu comme... Moi, j'ai connu le téléphone. On tombait sur une dame qui... Oui, voilà, je vous passe... Enfin, je suis d'un monde totalement disparu. J'allais garder les vaches. J'ai vu des bœufs égorgés dans la cour, de la boucherie du village. Donc je suis d'un autre monde, hein, quelque part. Je me rends compte, hein, ma génération. Il est beau, le bois. Il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Tiens, c'est bon, légumes. Attendez. Préparez tout d'abord.
Il a l'assiette principale.
On peut y aller, Thierry Levaux?
Allez,
on y va. Retournez-le. Voilà. Il y a mis un petit citron, pas dedans.
Citron.
Ouais, pas, un tout petit peu de citron dedans.
Ouais.
Attendez, faites ça. Attendez. Ouais, comme ça, voilà. Mettez un peu de poivre aussi. Du poivre. Le poivre. C'est chaud, elle est chaude, l'assiette, elle est chaude. Très bien. Qu'est-ce que c'est, ça? Ouais. J'ai commencé à écrire des carnets un peu par hasard en 77. Voilà. Et puis, ben là, voilà, j'ai pris celui-là. Il est de quand, celui-là? 99, ça, vous voyez? Gelée de légumes aux aromatiques, marinade de petites oignons cornets, huîtres et Saint-Jacques. Et là, j'écris. Je pars d'une idée, d'un produit, il y a une saisonnalité. C'est un exercice mental. Je me pose, voilà.
Mais ça veut dire que vous pensez le goût avant de le goûter, d'une certaine
manière. Ah oui, complètement, oui. Oui, complètement.
Ça paraît un peu...
Ben oui.
Comment on peut expliquer ça?
Je ne peux pas l'expliquer. Mais c'est un empilement de choses. Enfin, moi, ma cuisine, c'est ça. C'est une espèce de compression de goût. Vous avez un goût construit, comme une ratatouille. La ratatouille, on ne mange pas la tomate, on ne mange pas l'aubergine. On mange une ratatouille, c'est une ratatouille. Et c'est là qu'on rentre dans ce qu'est la cuisine française, la technicité de notre cuisine, la diversité de notre savoir-faire, Ben moi, j'essaie de l'explorer au maximum. Est-ce que j'ai bon goût ou mauvais goût ? J'en sais rien, j'ai un goût. Mais j'ai surtout, plus qu'un goût, je pense que j'ai un... J'arrive à construire des goûts. Mais je peux pas l'expliquer pourquoi. Il n'y a pas d'explication. Je pense que ce qui a fait ma force, c'est que j'avais pas de référent de culinaire.
Malgré le fait que vous ayez des parents restaurateurs ?
Non. J'avais pas de souvenirs marquants. Non, pas du tout. C'est ce terreau un peu neutre sur lequel j'ai grandi qui m'a permis de... J'aurais été d'une enfance gourmande, j'aurais été prisonnier de, j'aurais été pris dans un filet, vous voyez.
De référence.
Oui. Non, le goût, c'est de produire en bouche quelque chose qu'on ne connaît pas, voilà.
C'est ça que vous cherchez.
Voilà, sans doute, oui. C'est même sûr, voilà.
L'inconnu. Oui,
c'est sûr, voilà. C'est offrir. Offrir à votre palais quelque chose qui vous déconcerte, qui vous secoue un peu et qui dit mais qu'est-ce que c'est, ça c'est bon, ça me plaît ou ça me plaît pas, voilà. Et au début de ma carrière, je faisais aigre doux. Et aigre doux, pourquoi ? Ça, je l'ai analysé après. J'étais tellement peu sûr de moi. Je me disais, tu vas faire un peu sucré, un peu salé. Tu prends pas de risque. Mais je reconnais que à l'époque, je voulais donner. Je voulais prouver. Je voulais pas me pas prouver. J'ai jamais eu de désir de pouvoir ou de délire narcissique, quoi. Juste, j'avais tellement d'idées. Je voulais tout mettre sur la table, quoi.
C'était Manger la France, épisode 2, La fabrique du goût. Un documentaire d'Élodie Maillot, réalisé par David Jacoboviez. Avec Anne-Sophie Pic, Laetitia Viss, Luc Dubanchet, Roland Salès, Laurent Aron, Christophe Lavelle, Valentin Raffali, Estherelle Payani, Maurice Acco, Pierre Gagnère, Madame Mandy Payost et les élèves de CM1 de l'école de l'Arbre Sec. Merci à l'équipe du Festival Omnivore, à Chloé, à l'équipe du Balzac, à Magali, à l'école de l'Arbre Sec, à Yannick May et à son équipe, ainsi qu'à Émilie Fléchère. Merci à la classe de CE2-CM1 de l'école Auguste Perret et à Madame Pelé de Saint-Maurice. Prise de son, Olivia Branger, Nicolas Depagraf, Nicolas Mathieu et Alexandre Dorme. Documentation, Anne Signoret. Archivina, Ingrid Anne Lecointe. Mixage, Jason Taous. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin et Johanna Bedeau. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France. Prochain épisode, à table.
Ce qui compte, c'est quitter et la température dehors. C'est le moment que tu passes, tu vois. Mmh. Je préfère mal manger avec les gens que j'aime plutôt que très bien manger avec des cons, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ?
Écoutez France Culture. avec Philosophie. Cette semaine, portrait d'Iris Murdoch, philosophe écrivaine.
Géraldine Mosna-Savoie.
Son nom vous fait peut-être penser à celui d'une détective privée britannique et vous n'avez pas tort. Iris Murdoch, à travers ses romans et ses essais, avait une quête, celle de percer le mystère de la vie humaine. Mais comment rendre compte de la diversité de chacun et de nos drames personnels ? Cette semaine, on part en quête d'Iris Murdoch.
Avec Philosophie, du lundi au jeudi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture, tout de suite, les nuits de France Culture.